France Culture.
Bonjour le Book Club, bonjour Patrick Chamoiseau. Je viens de découvrir votre œuvre tout récemment. Ce qui a suscité mon attention, c'est le rôle que vous allouez à la littérature, celui d'instrument de résistance, et le faire en chantant les particularités locales et les voix minorées est très original.
France Culture, le Book Club, Marie Richeux.
Une grande question dans votre book club aujourd'hui, que peut littérature quand elle ne peut ? La question est formulée poétiquement et politiquement par le romancier et essayiste Patrick Chamoiseau. Grande question et petit livre, non pas pour y répondre définitivement, mais pour ouvrir encore et encore le vaste champ de la pensée, de l'action et du désir dans des temps où ces trois forces sont mises à mal et où bien des populations sont opprimées. Patrick Chamoiseau les nomme, les convoque auprès de lui en même temps qu'il convoque les textes pour visiter les beautés et s'appuyer sur des repères éblouissants. Il est notre invité. Vers 15h50, lecture jeunesse, comme chaque mercredi aujourd'hui, Mathilde Wagman ne nous parle pas d'un livre en particulier, mais de ces lieux précieux que sont les bibliothèques pour enfants. La première a été ouverte il y a 100 ans en France, et Mathilde nous raconte. Et en fin d'émission, on joue avec vous à chercher de la musique dans les livres, c'est le grand jeu des pages musicales. Voilà notre programme pour une heure. Bienvenue tout le monde dans le Book Club. Bonjour Patrick Chamoiseau.
Bonjour.
Que peut littérature quand elle ne peut, apparu aux éditions du Seuil, dans la collection Libelle. C'est une collection qui veut, je cite, « alerter, informer, questionner ». C'est parfait. On en parlera tout à l'heure, le petit livre sera au cœur de notre conversation, mais on va commencer par le traditionnel questionnaire lecture. Dans le Book Club de France Culture, on commence par faire le portrait de nos invités, d'abord en tant qu'ils ont peut-être été formés par des livres qu'ils ont rencontrés sur leur chemin. Bon, c'est un questionnaire lecture qui va trouver bien des échos avec le livre dont on parle, puisque vous y existez aussi en tant que lecteur dans ce livre, mais c'est tout à l'heure qu'on va parler de ça. Est-ce que vous vous souvenez, Patrick Chamoiseau, avoir appris à lire ?
Non, aucun souvenir. Je me souviens avoir rencontré les livres, et à cette époque, qui était une époque pour moi, pour la littérature, qui était une époque bénie, les livres étaient des objets illustrés, dorés, etc. Et quand j'ai découvert les livres, je ne savais pas lire et je passais mon temps à contempler les gravures. Et ça a duré des années et je ne sais pas à quel moment j'ai passé du dessin, de l'illustration, de la gravure au texte. Je n'ai aucun souvenir, c'est très mystérieux. Ce qui fait que pendant longtemps, j'ai plutôt été artiste, dessinateur et j'ai toujours associé. Lorsque j'écris aujourd'hui, j'ai toujours des petits griffonnements en marge de mes cahiers, je griffonne, je dessine, j'accompagne l'écriture d'une forme plastique d'une certaine manière. Mais donc je ne sais pas à quel moment j'ai lu ce que... Ma porte d'entrée, ça a été les images.
Oui, puis c'est intéressant d'entendre l'idée que dans un premier temps de l'enfance, pour vous, c'était la contemplation.
Ah, contemplation, mais contemplation infinie. Je rentrais à l'intérieur de l'image. J'étais le dernier d'une famille de 5 enfants. J'avais trouvé les livres dans une boîte de pommes de terre cachée au fond d'une penderie.
Chez vous ?
Chez moi. Ma mère n'avait pas de bibliothèque. À l'époque, il n'y avait pas de bibliothèque. Mes frères et sœurs avaient des prix scolaires et plein de livres, des beaux livres qu'on offrait aux enfants qui travaillaient bien. Et comme le livre était un objet sacré, c'était l'accès à la connaissance.
Présenté comme telle par qui ?
Par ma mère. Toutes les mères antillaises n'avaient qu'une idée, c'est faire en sorte que leurs enfants ne retournent pas travailler dans les champs de canne. C'était ça l'objectif, et ça passait par l'école. Donc elle sacralisait l'école, elle sacralisait l'étude, elle sacralisait les livres. Donc quand les livres arrivaient, elle les cachait d'une manière très précieuse au plus profond d'une petite penderie où elle serrait ces choses. Et moi, je suis tombé là-dessus, puisque mes frères et sœurs allaient à l'école, et j'étais tout seul à m'ennuyer, à errer, à jouer avec les araignées, avec les souris, etc. Et je tombe sur ça, j'ouvre la boîte, et je prends un objet livre magnifique, bourré de gravures. Et c'est dans les gravures que je vais passer mon temps. Et ça devient une rencontre rituelle, et les livres deviennent mes amis. J'ai des amis dans les livres depuis très très longtemps, avant même de savoir lire.
Vous dites que c'était des objets sacralisés. Est-ce qu'il a fallu les désacraliser ? Ou pas ?
Ah, non, ils étaient enchantés. Déjà, ils étaient enchantés par leur composition. Là, c'était vraiment de très beaux livres. Ils étaient enchantés parce qu'ils étaient dans une boîte fermée, secrète, une sorte de boîte au trésor. Et ils étaient enchantés parce que c'était mon espace de liberté. Personne ne m'a dit, tu vas lire ça, voici ce qu'il faut faire. J'allais en secret, à l'insu de ma mère et de tout le monde, j'allais ouvrir la boîte quand j'étais tout seul et je récupérais mes petits contacts et mes contemplations interdites, ou en tout cas pas autorisées, avec moi-même et pour moi-même dans des contemplations. Et comme je suis un mélancolique contemplatif et immobile, c'était parfait.
Après, quand vous commencez à pouvoir déchiffrer par vous-même, Patrick Chamoiseau, deveniez-vous un enfant ou un adolescent lecteur ?
Ah oui, 100% lecteur, ouais. 100% lecteur. J'ai toujours été très, très intériorisé, très solitaire, ce qui fait que dès que je pouvais, dès que l'envie me prenait de respirer large, puisqu'on était enfermé dans la maison, je ne pouvais pas sortir, l'enfant était bloqué dans la maison, tout le monde partait à l'école et puis moi j'étais dans la maison. Et j'allais dans les livres. Et c'est dans les livres que j'accédais à des étendues infinies. D'abord par l'image et puis par la suite.
Par les textes.
Le premier livre que je prends et qui est le livre inaugural, c'est Alice au Pays des Merveilles. On ne peut pas faire plus symbolique. Mm. C'est-à-dire que par le biais d'une, ce qui a remplacé le miroir d'Alice, c'est véritablement cette petite boîte poussiéreuse au fond d'une penderie où on a des bouts de toile, des chaussures, du matériel de cordonnerie. J'entre dans un autre monde, un monde qui n'a plus de limites et qui est un monde de la merveille, un monde du merveilleux, un monde de l'enchantement.
Mais pas que du merveilleux et de l'enchantement. Chez Lewis Carroll, il y a aussi. Vous n'aviez pas eu peur d'Alice au Pays des Merveilles ?
Non.
Rien
j'étais très content, très heureux, ça va m'ouvrir à plusieurs choses. D'abord, j'ai toujours associé les livres et la littérature à l'enchantement, à la merveille. Et ça va m'ouvrir à une autre donnée qui sera importante, c'est que dans la culture antillaise, la base antillaise, c'est l'oralité, et l'oralité, c'est les contes, et les contes, c'est le merveilleux antillais qui est très particulier et qui s'opposait directement aux oppressions esclavagistes et coloniales. Donc je rentre par la merveille occidentale, je vais progressivement être extrêmement sensibilité à tout le merveilleux, je dirais, créole et le merveilleux de résistance anticolonialiste.
Mais justement, est-ce que vous décelez ou à quel moment vous décelez que ce merveilleux créole-là, il est un levier de résistance ou un levier d'opposition ?
Ah non, c'est beaucoup plus tard. Non, là, j'étais dans l'enchantement. Je ne me posais pas de questions particulières. J'accompagnais Alice, je rêvais, j'observais les images. Je me suis mis d'ailleurs à dessiner, je pense, avant même d'écrire. C'est beaucoup plus tard. Beaucoup plus tard, ce qui va se passer, c'était une famille, une maison, il y avait plusieurs familles. Donc, ma mère venait de la campagne, donc les autres familles aussi. Et il y avait une jeune fille qui venait de la campagne régulièrement passer les week-ends avec des voisins. Et comme elle était à la campagne, elle avait vu, elle était en contact avec ce que je ne connaissais pas dans l'univers urbain, elle était en contact avec les conteurs des plantations. Et elle avait entendu les contes créoles. Et les contes créoles sont terribles. Ce sont des contes qui préparent les enfants, qui disent aux enfants qui n'enchantent pas la vie d'une certaine manière. Au contraire, le conte créole dit aux enfants, attention, tu es en enfer, tu es dans la difficulté, tu ne vas rencontrer que des monstres. Et dans le conte créole, il n'y a pas de bonne fée, il n'y a que des monstres. L'univers entier est menaçant. Et quand elle arrive comme ça pour passer le week-end avec nous, tu vois, les enfants se réunissent autour d'elle dans le couloir commun à toutes les maisons. Et elle nous raconte ces trucs absolument terrifiants qui nous emportaient la perception. Et tous ces monstres-là étaient des choses qui nous préparaient, en tout cas qui préparaient les esclaves à affronter une vie terrible, mais qui m'a, d'une certaine manière, rendu extrêmement attentif, extrêmement contemplatif, extrêmement prudent. Je pouvais contempler l'obscurité, la lune, écouter les bruits de la nuit, parce que les contes créoles ont peuplé la nuit de toute espèce de créatures très très dangereuses.
Dans votre vie de lecteur, je vais choisir deux mots qu'on va utiliser ensuite beaucoup dans notre conversation, Patrick Chamoiseau, à savoir l'ouverture et la relation. Est-ce que vous pourriez donner un titre de livre qui aurait joué un grand rôle d'ouverture, qui aurait ouvert quelque chose ou ouvert sur quelque chose
à toutes les époques ou au début?
Quand vous voulez.
Stèle de Ségalène. Victor Segalen, c'est un personnage. C'est un Breton militaire, vaguement dans une expansion coloniale, et qui va rencontrer, il va rencontrer l'altérité. Et au lieu de faire comme Pierre Loti, qui était aussi une sorte de colonial, qui rencontre l'exotisme un petit peu inférieur, bizarre, barbare, qu'il va collectionner comme ça de manière complètement, je dirais, précautionneuse, Segalen va être complètement émerveillé par la différence, par l'opacité des cultures, par ce qu'il ne comprend pas. Et il va dire, mais l'aventure humaine, l'expérience humaine, l'espèce humaine, c'est une infinie variété de diversité. Et ce qui risque de se passer dans les temps qui viennent, et c'est là qu'on voit le visionnaire poète, il risque que ce qui menace dans les années qui viennent, c'est que toute cette diversité ne soit abîmée, ne soit balayée, ne soit réduite. Et c'est le grand danger qui nous guette que de perdre cette diversité. Et il va dire aussi quelque chose d'absolument incroyable. Il va dire, mais cette diversité, il faut déjà pour l'aborder, il faut faire un aveu d'impénétrabilité. Vous savez, les colonialistes, quand ils rencontraient les gens qui n'étaient pas comme eux, ils ne les comprenaient pas, ces gens étaient obscurs, étaient opaques, donc ils voulaient les rendre transparents. Ils voulaient absolument les civiliser, les christianiser, et quand on n'arrivait pas à les civiliser, les christianiser et autres, on les génocidait. C'est-à-dire que c'était le refus total, non seulement de la différence, mais le fait que la différence puisse témoigner d'une relative obscurité ou d'une distance un petit peu indéchiffrable. Alors que Segalen, c'est tout le contraire. Il dit cette diversité-là, elle est précieuse, il s'approche des cultures asiatiques et au lieu de... Il n'essaie pas de devenir autre. Il laisse à l'autre son opacité et il s'imprègne comme ça de ce mystère de l'autre et il s'enrichit et il développe une écriture, des poèmes qui sont absolument incroyables. Et ça, c'était pour moi une ouverture incroyable.
Quand est-ce que vous lisez Victor Segalen ?
Ah, très tard, très tard. Alors là aussi, il a fallu un autre lien. L'autre lien, c'est Glissant. Glissant que je découvre beaucoup plus tard. D'abord Césaire, plus Glissant. Et Glissant va m'ouvrir à deux personnages. Il m'ouvre à Segalen pour bien comprendre la nécessité de la diversité. Et Glissant va m'ouvrir à un autre poète que je connaissais, mais en face duquel j'étais resté très réfractaire, c'est Saint-John Perse. Saint-John Perse est un blanc créole de la Guadeloupe. Donc, il est du côté des colonialistes, descendants, des esclavagistes, etc. Donc, j'avais lu Saint-John Perse d'un œil, quoi. Je dis, bon, ouais, on est fasciné par la puissance poétique, mais en même temps, on dit, bon, c'est un blanc, esclavagiste, colonialiste. Il n'est pas de chez nous, il n'est pas guadeloupéen, il n'est pas antillais. Et je refusais qu'on me parle de Saint-John Perse. Et c'est là que Glissant ricanait, me dit « Ah là là, tu es en train d'écarter un des plus grands poètes de cette époque, etc. » Et il m'en a tellement parlé que je suis revenu à pas feutrer vers Segalen. Et jusqu'à maintenant, Saint-John Perse, c'est mon livre de chevet. Et il a fallu cette ouverture d'ailleurs. Quand Segalen parle de l'aveu d'impénétrabilité, c'est-à-dire aborder la différence avec...
Mais quand il dit qu'il faut faire aveu d'impénétrabilité, il parle de deux côtés ? Il dit qu'il faut considérer l'autre comme étant impénébrable et soi-même aussi.
Il faut renoncer à la transparence de l'autre. Mmh. Et Glissant va reprendre...
Mais par conséquent à la sienne aussi ?
Ah oui, totalement.
Voilà.
C'est-à-dire que quel que soit le rapport que l'on a à l'autre, on n'a jamais une totale transparence. Mmh. On a toute l'intériorité, on a nos pensées, on a la multiplicité de notre moi intérieur, on a nos... Bon. Et c'est une illusion de croire qu'on connaît l'autre, véritablement. Mais c'était pire, parce que lorsqu'on était en face de la différence culturelle, religieuse, phénotypique, etc., on voulait absolument... On avait peur de cette distance, de cette altérité, et on avait peur de cette obscurité, de cette opacité. Et on s'était persuadé, à cause des colonialistes et des conquérants, qu'il fallait que cette différence disparaisse pour que la communication s'établisse. Mmh. Si tu n'as pas la même langue, eh bien, c'est pas possible. Si tu ne pas comme moi, bon, tu es menaçant, etc., etc. Et cet aveu d'impénétrabilité, c'est véritablement quelque chose d'absolument incroyable de la part de quelqu'un qui est dans un grand mouvement colonial, qui sème la transparence, qui sème l'universel, qui sème la civilisation, qui sème la standardisation et la normalisation. Opacité de l'autre, mais aussi comprendre le fait qu'on ne pourra jamais complètement exprimer ce que l'on porte à l'intérieur de soi. Il y a aussi une fréquentation de sa propre obscurité. Mmh. L'incompréhension de soi fait partie de l'incompréhension du monde. Et le poète a autant à se comprendre lui-même qu'à comprendre le monde.
Ou à ne pas se comprendre lui-même et à ne pas comprendre
les exact, autres. Exact, c'est-à-dire c'est la quête qui est importante. Mais c'est vrai qu'on n'achève jamais de se comprendre, d'autant qu'on n'arrête pas de se modifier. On évolue, on change, on se transforme. Et l'aveu d'impénétrabilité était intéressant parce que, du coup, cette distance qui enveloppait Saint-Lion Père, cette carapace coloniale, tous ces préjugés que j'avais, etc. Et puis son attitude, parce qu'il assume, Saint-Lion Père, il assume ça. Je dirais, il fait une sorte de glorification des conquérants, des grands découvreurs. Il a un texte absolument magnifique qui est, s'appelle Anabase, où il va rencontrer, montrer les grands conquérants des terres, etc., qui bâtissent des villes, qui bâtissent des empires, qui affrontent comme ça des espaces naturels. Il fait ça, mais comme c'est un grand poète, il rentre dans ce que l'expérience humaine a de plus magnifique et de plus profond, et il nous fait participer de quelque chose qui nous concerne. Et un exemple pour montrer la question de l'impénétrabilité, c'est John Perse, dans un truc qui s'appelle Éloge, il raconte un peu son enfance dans l'habitation de la Guadeloupe, et il parle des domestiques, les Noirs qui servent autour. Alors, il parle, il y a la grande table familiale, et derrière, il y a les domestiques Noirs, les hommes et les femmes, qui servent à les repas, qui desservent, etc. Et il disait qu'il y avait autour de nos chaises, je me souviens, autour de nos chaises, de ces faces insonores, des faces insonores, c'est pas des visages, hein, des faces insonores, couleur de papaye et d'ennui, comme des astres morts. Voilà, couleur de papaye et d'ennui comme des astres morts. C'est extraordinaire, c'est des astres morts. Et ça, c'est important parce que ça veut dire que le grand poète se rend compte que ces hommes qu'un colonialiste ordinaire va penser qu'ils se trouvent dans une situation agréable, on est en train de les coloniser, ils sont dans une belle maison, etc. Et ils sont gentils, ils sont dociles, ils sont fidèles. Lui, il perçoit l'inatteignable, il perçoit la douleur profonde, il perçoit l'inacceptable, il perçoit que ces êtres ne sont désormais que des astres morts.
Parce qu'ils sont éteints dans la
condition. Ils sont éteints, et il le perçoit, alors que le colonialiste ordinaire ou l'esclavagiste va penser que ses domestiques l'aiment, etc., etc. Mais lui, il perçoit cette dimension-là. Et cette description est absolument fantastique. Et quand je lis ça, je me dis, mais voilà la vision incroyable. On a chassé Faulkner aussi. Tous les Noirs sont absolument pratiquement immobile, fixe, une espèce de distance dans laquelle Faulkner ne va pas entrer. Il va pas entrer dans la tête des Noirs. Il les laisse comme ça et il comprend qu'il y a là, du fait de l'extrême souffrance et de l'extrême déshumanisation, qu'il y a là un inatteignable dans lequel il vaut mieux pas. Mais ils le perçoivent, les grands poètes perçoivent les situations humaines.
Deuxième mot pour ce questionnaire lecture et rapide réponse, Patrick Chamoiseau, un livre ou une œuvre qui aurait, vous avez cité Édouard Glissant, qui aurait eu le rôle de vous mettre en relation avec quelque chose, avec un temps, avec un espace, peut-être avec vous-même, avec quelqu'un d'autre.
Ah oui, enfin, je pense que, bon, c'est une déflagration, hein, Le rapport à la littérature, c'est une lente révélation, c'est une lente déflagration, mais c'est le rapport à la langue. La langue française, c'est la langue de la littérature, de la connaissance, de l'école, etc. Et ma langue maternelle, c'est la langue créole, langue qui n'est pas écrite, qui est la langue de ma mère. Mon père parlait plutôt français, etc. Ma mère était créolophone. Et c'est la langue de l'ordinaire, mais une domination totale de la langue française. Et qu'est-ce que je vais rencontrer ? Je vais rencontrer Rabelais à l'école. Bon, je rencontre Albert, mais comme je n'aime pas l'école, j'écoute ce qu'on dit de Rabelais, et puis c'est tellement mal fait. En général, bon, je ne perçois pas un peu l'intérêt. parle d'un vieux français ancien qui est bon. Mais je vais lire, comme je suis un grand lecteur, depuis la boîte de pommes de terre, ma mère a remarqué que j'aimais les livres, et elle me ramenait, comme elle ne faisait pas de différence entre un photoroman, un roman policier, un photo... Bon, elle me ramenait tout ce qui était imprimé, et je suis devenu un lecteur universel. Donc, grand lecteur de romans perçus, d'espionnage, de romans policiers. Et sur qui je tombe? Je tombe sur San Antonio. San Antonio, c'est un auteur qui raconte l'histoire d'un commissaire. Je ne sais plus comment il s'appelait. Il y avait un adjoint qui s'appelait Berruyer. Mais la langue de San Antonio, c'est de l'argot. C'est-à-dire que la langue française, qui dans l'école et dans les livres que je lisais, était relativement sacralisée, impériale, dominante, etc., dans San Antonio, devenait un artifice de rire, de joie, un langage absolument incroyable qui était complètement survolté. La langue était mise au service d'une espèce de furie langagière, complètement folle et complètement libératrice. Et là, c'était vraiment l'ouverture d'un rapport différent à la langue.
Mais c'est-à-dire quoi? Ça vous révèle, parce que là, vous citez à la fois le vieux français de Rabelais, mais aussi le français argotique chez San Antonio et votre mère créolophone. Donc ça veut dire que faisant des détours vers d'autres formes de langue, qu'est-ce qui a vous revenez au créole?
Non.
Qu'est-ce que ça
faisant
vous permet?
Faisant le détour vers d'autres formes de langue, je réalise que la langue ne peut pas être sacralisée, peut ne pas être sacralisée.
Peut ne pas être.
Elle peut ne pas être sacralisée. Et ce qui est important, parce que lorsqu'on est un pays colonisé avec une langue dominante et qu'on commence à écrire des poèmes, on ne fait pas qu'écrire en français. On bascule dans un imaginaire, dans une vision qui était la vision occidentale du monde. Je me rappelle que quand j'ai commencé mes premiers poèmes, très très tôt, je parlais de sapins, de neige, d'automne, de peupliers, des choses que je n'avais jamais vues. Autour de moi, il y avait des cocotiers, des manguiers, des corossoliers, des hibiscus. Je ne parlais jamais de ça dans mes poèmes. En plus, un mode de saisie de la langue française qui était comme si je rentrais dans une cathédrale à bas bruit, sans trop déranger l'espace. Et puis, brusquement, je tombe sur cette espèce de folie langagière qui va me révéler Rabelais. Il a fallu que je passe par San Antonio pour comprendre ce qu'il y avait de terrible chez Rabelais. Tel que c'était présenté pédagogiquement, c'était pas présenté sous l'angle de cette révolution esthétique, ce mode de connaissance langagée absolument fabuleux qui rassemblait, qui mobilisait toutes les expressions, tous les langages possibles, du plus savant au plus vulgaire. Ça, c'était pas tellement sous cet angle-là. Et en passant par San Antonio, moi qui venais d'une sacralisation excessive avec une souffrance, parce que quand j'arrive à l'école, je suis créolophone dans ma petite tête, et on m'interdit de parler créole. On m'interdit d'utiliser la langue créole. Ce qui fait, j'étais obligé d'utiliser la langue française et de traduire toute ma sensibilité qui jusqu'alors était exprimée essentiellement en créole. Il a fallu que je la traduise. C'est terrible d'avoir à se traduire soi-même. Ce qui fait que j'étais devenu muet. Et que mon désir d'acquisition de la langue française m'avait, d'une certaine manière, pétrifié dans mon utilisation de la langue. Donc, la voie d'ouverture, ça va être San Antonio, Rabelais, Villon. Et à ce moment-là, j'ai pu me comporter de manière très libre et de manière créatrice, comme doit le faire un écrivain. Parce qu'un écrivain, c'est plus qu'à dire qu'il écrit, un écrivain écrit en langue étrangère, mais un écrivain, il crée dans la langue ou dans les langues qui lui sont données, il crée les paysages, des paysages qu'il habite. Ce sont des paysages singuliers. Et il faut être capable de le faire. Alors que dans l'aliénation coloniale, les langues étaient tellement des armes pour les colonialistes qu'il fallait vraiment briser la cathédrale.
On va parler de votre dernier livre, Patrick Chamoiseau, Que peut littérature quand elle ne peut, juste après cette chanson interprétée par Mélissa Lavaux. Elle s'appelle Nan Faux Bois. C'est à l'origine une chanson folklorique haïtienne écrite en 1969 par le guitariste et compositeur Franz Casseus. Elle est décrite, cette chanson, comme une ode à la nature, à l'ivresse et à la danse Yanvalou, un testament sur la richesse et l'espoir de la jeunesse. Thank you.
Le Book Club, Marie Richeux.
Nous sommes dans l'inconcevable, mais avec des repères éblouissants. L'exergue du livre qui nous occupe aujourd'hui est emprunté à René Char et c'est d'emblée la grande question qui le travaille et qui est formulée poétiquement. Que peut littérature quand elle ne peut ? Dans ce court essai, qui pour une part reprend un discours écrit en 2024 pour la manifestation « Lire notre monde » à Strasbourg, vous réfléchissez, Patrick Chamoiseau, à toutes ces formes, à toutes ces machines narratives, ces états poétiques qui ne baissent pas la tête face à l'impensable, mais qui établissent une relation gourmande aux complexités du réel, aux complexités en soi, on l'a entendu tout à l'heure, des formes qui débraillent les narrations, qui élargissent tout ce qu'ils peuvent élargir. Vous en appelez à une épique renouvelée pour faire sortir les elfes des rochers. Et cela, vous le faites dans un temps particulier, vous le faites en temps de guerre, vous le faites en temps d'oppression, vous le faites après le 7 octobre, vous le faites après l'élection de Donald Trump, vous le faites en nommant les Kurdes, les Ouïghours, les Ukrainiens, les Haïtiens, les Tutsis, les Rohingyas et toutes celles et ceux que vous ne nommez pas mais que vous appelez près de vous. Alors on va faire comme en classe, puisque vous aimez pas, et que ça va nous rappeler des bons souvenirs quand même. On va prendre les termes de la question.
D'accord.
Que peut littérature ? On va prendre ce mot qui n'a pas d'article et qui a une majuscule. Qu'est-ce que vous faites en faisant cela, Patrick Chamoiseau ? C'est quoi littérature ?
Ça, je ne sais pas. Un écrivain passe sa vie à essayer de comprendre ce qu'est la littérature. Et comme tous les artistes, un artiste c'est quelqu'un qui essaie de comprendre son art. Pourquoi il essaie de comprendre son art ? Parce que lorsqu'on pratique un art, on cherche son irréductible. Quand j'écris, ce que je montre ou que j'explore ou que j'essaie de circonscrire par le biais du langage littéraire. L'écrivain est un artiste du langage. J'essaie de circonscrire un indicible, un impondérable, un inatteignable, etc. Et c'est très, très, très difficile. Ce qui fait que la chose nous échappe le plus souvent. Donc, quand je suis en situation d'écriture, à certains moments, j'ai la fugace sensation de pouvoir comprendre ce qu'est l'irréductible de ce qu'on a à montrer. Je dois écrire ce que seule la littérature peut écrire.
Oui, mais sauf que la littérature, vous dites littérature, Patrick.
Oui, je dis littérature.
Quand on est
dans une situation, je suis un créole américain, je suis dans une situation antillaise avec la traite des Noirs, le génocide amérindien. Je suis dans un imaginaire particulier qui est l'imaginaire des Amériques. Donc il y a les littératures des Amériques, mais les littératures des Amériques ont une quintessence particulière qui est la littérature elle-même. Et cette quintessence, elle est valable pratiquement pour toutes les situations où il y a, dans une situation humaine, dans un état du monde, il y a un usage de l'art littéraire. Donc, on a besoin de cette diversité littéraire qui est liée à des conditions spécifiques, à des singularités, à des opacités historiques, etc. On a besoin des littératures et ne pas tout de suite essayer de basculer dans une sorte d'universel de la littérature qui ne voudrait rien dire. On a cette multiplicité-là. Et après, on peut se dire, mais tous ces auteurs, toutes ces conditions humaine qui s'effectue dans des situations des états du monde singuliers, tout ça se rejoint dans l'humaine condition, l'expérience humaine, qui n'est pas un universel, mais qui est une quintessence de l'expérience humaine dans la matière du monde et dans la biosphère. Ce qui fait que quand je suis aux Antilles, je suis dans une littérature, la littérature caribéenne, qui rejoint un petit peu tous ceux qui sont à peu près dans le système des plantations, avec une condition historique à peu près similaire, on est à peu près dans le même truc, on est dans une littérature. Ce qui fait que quel que soit l'endroit où on se trouve en littérature, on est dans une littérature. Pourquoi je fais cette distinction entre les littératures et littérature, là où il n'y a pas d'article, qui représente l'idée la plus inatteignable de ce qu'on peut se faire, de la quintessence de cette activité.
Deuxième partie de cette question du titre de votre livre, Patrick Chamoiseau, c'est « Quand elle ne peut ». Alors, qu'est-ce qui vous fait dire que dans l'état actuel du monde, à l'endroit où vous êtes, au moment où vous pensez, elle ne peut ?
Oui, d'abord quand elle peut. Moi, je sais ce qu'elle peut. Je sais qu'elle peut parce que quand je suis allé dans la boîte de pommes de terre, petit négrillon qui s'ennuie, apeuré, craintif et qui ouvre la boîte au trésor et qui commence à se plonger dans l'univers des livres, je sais ce qu'elle peut, c'est-à-dire elle réenchante l'existence. Elle remplit la vie qu'on ne comprend pas, tous ses désirs, toutes ses questions, toutes ses angoisses, toutes ses limitations que l'on a. Le fait de rentrer dans une littérature, ça vous remplit comme ça d'un supplément d'existence. On commence à exister, voilà, on existe. Donc je sais qu'il y a dans le pouvoir de la littérature, il n'y a pas de pouvoir en littérature, il y a une puissance. Dans la puissance de la littérature, comme dans la puissance des arts, il y a une amplification de l'existence. Mais ça, c'est pas lié au pouvoir, c'est pas lié aux utilités de l'existence. Ce n'est pas prosaïque, c'est pas avec ça qu'on va manger, etc. On va simplement être mieux vivant, plus largement vivant. Ça, elle peut. Alors, cette espèce de, je dirais, d'alchimie, pratiquement inutile aux prosaïques, aux utilités, aux fonctionnalités, et qui est fondamentalement nécessaire pour, je dirais, le développement de son imagination, de sa sensibilité, de sa perception, de son désir, de le peuplement de ses angoisses, l'exploration de ses névroses. Tout ça, ça sert pas comme ça aux utilités autour. Donc, il y a une puissance qui paraît inutile, enfin, qui n'est pas dans les utilités de la société et qui, a priori, ne vous donne pas de diplôme, ne vous permet pas d'être considéré. C'est simplement une affaire entre vous et une extension de la créativité. Et ce qui fait que quand les grands problèmes sociaux, les colonialismes, les esclavagismes, les impérialismes, les mélanges de colonialisme et de capitalisme, les dispositifs mafieux que l'on voit dans le capitalisme aujourd'hui, avec des oligarques qui se mettent à se rapprocher des politiques, nous sommes absolument désespérés. Et on ne va pas penser. On va chercher des partis politiques, on va essayer de trouver des rassemblements populaires, on va chercher plein de choses et on va oublier. On va se dire, bon, c'est pas avec les arts, c'est pas avec la musique, c'est pas avec la danse, et surtout pas avec la littérature qu'on va essayer de se battre. L'urgence, c'est au combat. Et le combat, on a l'impression que du côté des arts, il y a une sorte d'impuissance. Ce n'est pas là que nous allons mobiliser notre culture, en tout cas notre rapport singulier et intime à la littérature. Donc on se dit, mais ça sert à rien. Alors que je sais que d'après, quand on regarde ce qui s'est passé dans toute l'histoire du monde et de la littérature, on sait quand même que l'activité artistique a été absolument déterminante dans beaucoup de cas de domination. Et les repères en la matière sont éblouissants. Ce qui fait que la simple prise en compte des potentialités de la littérature nous permet de voir ce qui s'est passé dans le passé, et puis ça nous permet aussi de voir ce qu'on peut construire quand la nuit commence à s'épaissir et que les ténèbres vont nous envahir.
Vous dites, Patrick Chamoiseau, dans ce texte, vous repérez des moments de ténèbres et vous montrez comment de ces moments de ténèbres sont nés des œuvres et des repères éblouissants. Vous parlez de la naissance de l'œuvre de Toni Morrison, vous parlez de la naissance de l'œuvre de Césaire, vous parlez de la naissance, ça vous fait rire, de l'œuvre de William Faulkner.
Non, parce que c'est génial, parce que moi je trouve ça tellement, tellement incroyable. Moi, je me dis comment un petit pays comme la Martinique, une colonie de sucre, un truc d'exploitation, le vivant a été complètement réifié, où on a exploité des millions de personnes, des générations entières ont été fouettées, une espèce de... On est hors de l'humanité. Les colonies, c'était hors de un non-lieu, c'était hors du droit, hors de l'humain, hors de la législation, hors des lumières, enfin bon, c'était un non-lieu. Et ces lieux-là vont donner quand même ces airs fanons glissants. Je me dis, il y a quand même un truc incroyable.
Mais vous en faites un lien de causalité ?
Non, vous... je ne comprends pas. Je comprends sans
vous
comprendre.
Vous dites, de cette oppression-là, naissent ces repères éblouissants ?
Voilà, c'est-à-dire que la plupart des philosophes disent que la pensée ne nous est pas naturelle. Enfin bon, on va très rapidement s'installer dans des conventions, dans une petite réalité, dans des choses admises, des fixités, des réductions, du déjà dit, déjà pensé, bon, des clichés. On va vite s'installer dans ça. Et quand le philosophe apparaît, c'est-à-dire quand le penseur apparaît, il a besoin d'une stimulation extérieure. Et c'est pareil pour la littérature. La littérature a besoin qu'on la réveille. L'acte de littérature, c'est un acte de création. L'acte de création chez Sapiens, c'est le mouvement ascensionnel de l'idée, de la pensée. Et pour que la pensée surgisse, il lui faut un stimuli. Et ce que j'ai constaté, c'est que c'est tant désespérant que nous vivons aujourd'hui. On se dit, mais c'est comme si un peu après Auschwitz, on se disait, est-ce qu'on peut encore se livrer à l'écriture d'un poème ? Je dis oui, parce que Auschwitz va particulièrement déclencher un désir de penser. On a nécessairement, face à l'impensable, face à l'inconcevable, face à ce qui nous bouleverse, la pensée se met en branle.
Mais vous parlez d'un autre mouvement, Patrick Chamoiseau, c'est-à-dire qu'à la fois vous décrivez le mouvement des ténèbres qui vont mettre des pensées en branle et réveiller la puissance de création chez Homo sapiens, mais vous parlez aussi de ce que nous pouvons aller chercher en temps obscur, dans les repères éblouissants, c'est dans les deux
sens
que ça va.
Oui, les repères éblouissants sont déjà là. C'est-à-dire, par exemple, on a connu un phénomène à peu près similaire à ce qu'on vit aujourd'hui. En Amérique latine, il y a eu une période de dictature. Les dictatures se succédaient, bon, c'était épouvantable. Et les créateurs ont été confrontés aux dictatures. Et on a lu toute la littérature latino-américaine qui a exploré la question de la dictature. Et aujourd'hui, maintenant qu'il y a une forme d'autoritarisme très particulier, une forme de néo-fascisme qui survient avec des personnages absolument monstrueux, quand on se plonge dans ces repères éblouissants que sont l'automne du patriarche de Garcia Marquez, Monsieur le Président de Miguel Angel Asturias, qu'est-ce qu'on a aussi, Moi le Suprême d'Augusto Roa Bastos, La Fête au Bouc de Vargas Llosa, toute une littérature latino-américaine confrontée à la nuit des dictatures de cette époque qui était absolument incroyable. Ils ont plongé dans cette réalité humaine qu'est le dictateur. Si on veut comprendre ce qu'il y a dans la tête de Trump et de tous ces personnages qui nous épouvantent, et il faut lire l'automne du patriarche et il faut lire ces textes-là. Les repères éblouissants sont déjà produits par les littérateurs. Et ce qu'on comprend, c'est que si les repères éblouissants ont déjà été produits face aux ténèbres les plus terribles, dans celles qui nous arrivent, on a besoin de produire aussi, par le biais des arts, par le biais de la musique, par le biais des arts plastiques et par le biais de l'activité littéraire, dans ce que seule la littérature peut faire, on a la possibilité de produire des repères éblouissants. Et comment on peut le faire ? C'est simplement en échappant à la réduction que sont ces dominations, toute atteinte à la beauté, toute atteinte à l'humain, ce sont des espèces de grands récits qui réduisent la complexité du réel et qui réduisent la complexité de l'humain à des choses absolument, à des utilités immédiates. Quand on sort du récit, on sait que nous devons sortir du grand récit et aller vers ce qui fait la base de l'esprit de Sapiens, qui est la narration. La narration, c'est quoi ? La narration, c'est pas cette dimension particulière d'une forme de l'esprit de Sapiens, la partie prosaïque qui voulait simplifier le réel, l'habiter de manière un petit peu fixe, de manière un petit peu immobile.
Mais qui sont aussi des narrations très puissantes à l'œuvre.
Oui, on a des narrations qui sont absolument puissantes. Un mythe fondateur, un mythe fondateur ou une cosmogonie, ce sont pratiquement des narrations qui sont proches du poème. Mais le poème n'est pas un récit. Le poème, c'est une saisie de la complexité, des mystères, des éléments du mystère, l'incommunicabilité, l'impénétrabilité est touchée, explorée. On l'a effleuré et on en ramène quelque chose qui développe la sensation, l'image, la pensée, etc. Et c'est comme ça que, en produisant la narration, en restant dans la narration, en évitant l'ornière du récit, que l'on ouvre infiniment et qu'on peut, à partir du réel, à partir de toutes les potentialités du réel, ramener des choses qui vont nous permettre de déconstruire les grands récits simplistes, de déconstruire les récits élémentaires et d'élargir les réalités, d'élargir notre conscience, d'élargir notre vision et d'élargir notre capacité à créer un monde que Trump ne connaît pas et qu'aucune dictature ne connaîtra.
J'ai encore tellement moins le capitalisme. De plaisir à vous entendre, Patrick Chamoiseau, et vous êtes porteur d'un espoir qui manque probablement en ce moment, et j'ai envie de vous croire aussi. Je pense qu'il y a plein de gens qui nous écoutent
ici. Moi aussi, j'aimerais de me croire.
Voilà, il y a plein de gens qui nous écoutent
sur
France Culture.
Ça ne veut pas dire que je sois optimiste, hein. Je suis ni optimiste ni pessimiste.
Dans cette émission-là, où les livres sont au cœur de la conversation tous les jours, en direct, pendant une heure, etc. Mais en même temps, la puissance de la machine en face, qui est aussi une machine de narration, est tellement forte que lorsque vous en appelez à la capacité de saisie du réel par le poème, lorsque vous en appelez aux éclats du nous interne, lorsque vous en appelez à la puissance des complexités face au récit simpliste, et que vous le faites en appelant près de vous, dans la parole, les peuples opprimés, les plus détruits, les peuples génocidés, c'est difficile, c'est difficile de croire dans cette force-là.
Ouais.
C'est difficile de ne pas se dire que je vais me faire l'avocat du diable, que ce sont des beaux mots, que ce sont des bons mots. Vous voyez ce que je veux dire? Alors comment vous faites pour
Il faut simplement comprendre qu'il y a une différence entre pouvoir et puissance. Le récit, le grand récit, donne du pouvoir
de pouvoir.
Et le pouvoir a la force. Mais le pouvoir n'est pas une puissance. La puissance, c'est une très haute intensité de possibilités. Dans la puissance, on a des virtualités infinies. C'est pourquoi la narration est une puissance. La littérature est une puissance, mais ce n'est pas un pouvoir. La poésie, c'est une puissance, mais ce n'est pas un pouvoir. Et quand on est du côté de la puissance, on peut vaincre tous les pouvoirs. On ne peut avoir de puissance que quand on n'a pas de pouvoir. Un exemple, la plantation esclavagiste. Il faut revenir, moi je reviens beaucoup sur ces conditions d'apparition du système des plantations esclavagistes, parce que la conscience occidentale a tendance à écarter tout ça. Non, ça fait partie des fondations du monde contemporain. Dans la plantation esclavagiste, grand récit esclavagiste. Le nègre n'est pas un homme, les Amérindiens sont génocidés, c'est pas des hommes non plus. La nature, c'est un truc qu'on peut aspirer, exploiter, forer, etc. On est dans un grand récit terrible, les ténèbres terribles. Qu'est-ce qui va se passer? On a des êtres humains qui vont partir en marronnage, qui vont se battre, qui vont se faire mutiler. Bon, on a les nègres marrons. Mais on a d'autres qui vont aller du côté de la puissance, qui vont aller du côté de la création. Et on aura des joueurs de tambour, on aura des danseurs. Ça paraît dérisoire. Hein?
Non,
On est en pleine déshumanisation. Et d'ailleurs, les chroniqueurs étaient complètement bluffés parce qu'ils disent « Ah, finalement, les Noirs sont pas si malheureux comme ça, parce qu'ils jouent des tambours, ils dansent tout le temps, ils chantent, et puis ils racontent il y a des conteurs qui viennent, et ils racontent, ils se rassemblent, sont de bons enfants, ils sourient, ils sont du côté du rire, ils sont du côté du poétique, ils se sont mis du côté du poétique. Et en développant leur état poétique, ils ont développé leur capacité créatrice. Et ils ont mis en mouvement. Dans leur corps qui était abîmé, qui était possédé, ils ont réintroduit une autorité intérieure. Une autorité intérieure parce que toute création est un acte d'autorité. Et celui qui est créateur, il commence par exercer une autorité sur l'amplitude de soi-même. Mais une amplitude qui demeure puissante, c'est-à-dire qui demeure ouverte. Et il ne se raconte pas d'un récit. Il se raconte des narrations. Et la narration reste ouverte. La narration, c'est tout le possible. Et comme les ténèbres sont concentration totale, ils imaginent un monde qu'ils ne peuvent pas imaginer. Ils devinent un monde, ils dansent un monde, ils chantent un monde, ils espèrent un monde, ils rêvent un monde qu'ils ne comprennent pas et qu'ils ne peuvent pas imaginer, mais qu'ils savent qu'il est là. Et ça va donner toutes les grandes dynamiques populaires des Amériques. Et ça va donner quoi pour bien comprendre? Bien sûr, Calypso Zouk, mais ça donne le jazz. Le jazz, c'est la musique contemporaine. C'est la musique des temps où toutes les cultures, toutes les civilisations, tous les individus, toutes les formes d'expression musicale se sont rencontrées dans une liberté totale dans laquelle les individus, en pleine puissance de leur expérience, vont improviser une projection vers le réel et une projection créative. C'est ça la puissance. C'est pourquoi je dis aux gens, ne désespérez pas. Ce qui nous arrive aujourd'hui en matière de ténèbres, c'est une stimulation formidable. Elle est formidable parce qu'elle devrait nous aider à comprendre qu'il ne faut pas les laisser réduire les politiques culturelles. Qu'une librairie, c'est aujourd'hui, comme moi j'étais dans une librairie ce matin, rentrer dans une librairie où il y a un libraire, on trouve une âme, on trouve une sensibilité dans toute cette production industrielle de livres. Quand vous trouvez un vrai libraire, vous entrez. Je sens tout de suite qu'il y a une sensibilité, il y a une puissance.
Oui, mais Patrick Chamoiseau, vous prêchez une convaincue en face de vous, mais sur la couverture du livre, vous appelez près de vous pour parler, pour prendre la parole, les Palestiniens, les Tibétiens, les Ouïghours, les Rohingyas, les Tutsis, les Kurdes, les Ukrainiens, les Haïtiens. C'est-à-dire qu'il n'est même pas question là de sauver des politiques culturelles, et Dieu sait qu'on veut les sauver, les politiques culturelles. Il est question de parler dans des temps extraordinairement grave.
Oui, bien sûr.
Vous commencez par faire ça. Vous dites, je ne peux pas prendre la parole en faisant autre chose qu'appeler près de moi ces peuples-là.
Ah oui.
Ça veut dire que ça donne quand même une certaine gravité à ce que vous êtes en train de dire.
C'est une très grande gravité, mais c'est une amplification de la perception. Quand on regarde le monde du point de vue de Gaza, dans les ruines de Gaza, on voit un monde, bon, si on échappe au ressentiment, à la colère, etc., on voit un autre monde. On se dit que ce monde n'est pas possible. Ce capitalisme qui paraît apporter la modernité, qui va nous sauver, cette consommation à outrance, cette réduction de toute la vie humaine à l'économie, tout ça, ça devient une absurdité. Tout ce pouvoir qui nous fascine, dans lequel on s'installe facilement, lorsqu'on regarde le monde depuis cette amplitude-là, on a un autre monde possible. On se dit que ce monde-là n'est pas habitable. Ce qui fait que quand je me mets du côté des causes perdues, de ceux qui sont abîmés, de ceux qui sont blessés, de ceux qui ne peuvent pas respirer dans la réalité de mon époque ou dans la réalité dans laquelle je m'accommode plus ou moins, je me suis, d'une certaine manière, mis à l'écart. J'ai ouvert ma perception. Et on sait que la position du vaincu est plus intéressante que celle du vainqueur. Pourquoi ? Parce que le vainqueur, il n'a que sa vision. Apparemment, il est vertical, il voit en haut, mais il ne voit pas plus loin que le vaincu. Le vaincu, lui, il a la vision du vainqueur et il a sa vision à lui. Ce qui fait qu'il a une amplitude de la perception, il développe une puissance. Et pourquoi c'est pas les colons blancs qui ont inventé le jazz, le blues, les grands gospels, la puissance, la grande philosophie américaine, ce sont les grands jazzmen. C'est pas des blancs. C'est ceux qui étaient au plus profond de la souffrance. Les Amérindiens n'ont pas pu le faire parce qu'ils ont été totalement déstructurés. Mais la position mineure, blessée, laminés de la circonstance nègre, tous ces Noirs qui venaient d'Afrique et qui se sont retrouvés dans cette géhenne, dans ce lieu de confluence, de civilisation, de culture, de musique, de tout ça, et qui ont mobilisé tout ça, ils ont pu développer une puissance, ils ont pu mobiliser toute la richesse du monde qui était à leur portée et produire quelque chose qui était valable pour tous, qui n'était pas un universel. Être valable pour tous, ça ne veut pas dire universel.
Non, d'ailleurs, vous en appelez davantage dans ce texte au diversel, et c'était ce vers quoi d'ailleurs voulait vous questionner notre auditeur Amine, qu'on n'aura pas le temps d'entendre, mais à qui l'on pense. Le Book Club continue.
France Culture, le Book Club, Marie Richeux.
15h50 et comme chaque mercredi, l'heure est venue de prendre des nouvelles de la littérature jeunesse avec vous, Mathilde Wagman. Bonjour Mathilde.
Bonjour Marie.
Aujourd'hui Mathilde, vous nous parlez non pas d'un ou de plusieurs livres, mais de ces lieux où les enfants peuvent les trouver tous ou presque. Vous nous parlez des bibliothèques pour enfants.
Absolument Marie. Combien de vos invités ici même, lorsque vous les interrogez sur leurs souvenirs de lecture dans l'enfance, vous ont parlé de ces lieux qui ont été pour eux celui de la rencontre avec les livres. J'ai nommé les bibliothèques publiques financées en France par les collectivités territoriales. Ces lieux qui, partout dans notre pays, mettent à disposition des livres de qualité pour les enfants et gratuitement. Livres que ces enfants peuvent choisir eux-mêmes dans des rayons qui leur sont accessibles et emprunter en bénéficiant de la bienveillance et des conseils avisés des bibliothécaires dans des espaces chaleureux, pensés pour eux, lieux où ils peuvent aussi venir participer à des activités, des lectures orales, assister à des rencontres avec des auteurs, bref, des lieux où la lecture est aussi une pratique sociale et vivante. Autant d'éléments qui sont le fruit d'une longue histoire, une histoire relativement récente cependant. À votre avis Marie, quand a été créée la toute première bibliothèque pour les enfants en France?
Franchement, je sais pas, j'adore les devinettes, je tente un 19e siècle par exemple.
Eh ben non, c'était il y a moins longtemps que ça, il y a presque tout juste 100 ans. La toute première bibliothèque dédiée aux enfants a été inaugurée le 12 novembre 1924 à Paris. Elle s'appelait L'Heure Joyeuse, était située en plein cœur du quartier latin, rue Boutebry. On peut voir en ce moment et jusqu'au 23 mars une exposition qui en raconte l'histoire à la médiathèque Françoise Sagan dans le 10e arrondissement parisien. Elle s'intitule « À quoi bon lire ?» en référence au discours prononcé par un certain Eugène Morel le jour de son inauguration. Je cite les mots de ce monsieur. « Nous pensons que la bibliothèque libre, la bibliothèque de tous, est l'organe essentiel de la cité moderne. À quoi bon apprendre si tu cesses d'apprendre ? À quoi bon savoir lire si tu n'as rien à lire ?»
Je voudrais pas insister et avoir l'air de vouloir avoir raison, mais il n'existait vraiment aucune bibliothèque pour enfants avant cette date ?
Ouais, c'est étonnant, mais c'est pourtant le cas. Avant la Première Guerre mondiale en France, si quelques livres pour enfants étaient proposés dans les écoles, dans certaines paroisses ou mouvements de jeunesse, aucun lieu ne leur était véritablement dédié. Au début du XXe siècle, un certain nombre de progressistes militaires pour une évolution, le bibliothécaire Eugène Morel, que je citais, publia en 1910 un ouvrage dans lequel il plaidait pour une modernisation des bibliothèques, à l'image de ce qui se faisait déjà en Angleterre ou aux États-Unis. Le tournant s'opéra véritablement au lendemain de la Première Guerre mondiale, notamment grâce à l'action de plusieurs comités américains qui s'engagèrent dans la reconstruction de la France. C'est le cas du Book Committee on Children's Libraries, présidé par une femme de diplomate qui voulait faire œuvre de paix en offrant une bibliothèque de prêt gratuite dédiée à la jeunesse et disposant d'une salle de lecture. C'est ce comité qui permit que s'ouvre à Paris L'Heure Joyeuse, donc en 1920. Le comité assura la formation des bibliothécaires, importa du mobilier fabriqué aux États-Unis à la taille des enfants et finança l'achat de livres. La ville de Paris en fournit le local. Les bibliothécaires adoptèrent le modèle du libre accès aux documents et proposèrent un lieu agréable selon la devise américaine « More a home than a school », autrement dit, davantage un lieu de vie qu'une école. L'endroit disposait d'une belle cour où les enfants pouvaient aller lire dehors quand il faisait beau. Ils y étaient admis à partir de 7 ans, garçons et filles mélangés, grande originalité pour l'époque, et la diversité de population du quartier permettait également une certaine mixité sociale.
Alors vous avez parlé de l'expo, qu'est-ce qu'elle montre, qu'est-ce qu'on y apprend Mathilde ?
L'exposition retrace précisément cette histoire et son contexte à travers des archives de toutes sortes, des photographies, un petit film d'actualité pâté, beaucoup d'objets aussi, des cartes d'emprunt du mobilier, des affiches, des livres bien sûr, mais aussi ces beaux vases fleuris que les bibliothécaires plaçaient sur les tables pour que l'endroit soit beau tout simplement. Un hommage est rendu aux trois femmes qui furent l'âme de ce lieu pendant de nombreuses années, Marguerite Gruny, Claire Huchet et Mathilde Leriche, véritables pionnières en leur domaine. C'est elles qui en constituèrent le premier fonds, organisèrent des séances de lecture orale appelées l'heure du conte, elles qui s'inspirèrent aussi des principes de l'éducation nouvelle en mettant en place une organisation dans laquelle les enfants participaient à la vie de la bibliothèque. En témoignent par exemple les registres de suggestions d'achat ou encore la pièce de théâtre qu'un certain Jean Anouilh, 16 ans, écrivit pour la fête de Noël en 1929. Ces femmes organisèrent aussi des échanges nourris avec les éditeurs, comme Paul Fauché, le fondateur des éditions du Père Castor, qui testa à L'Heure Joyeuse ses premiers albums. Elles militèrent pour que d'autres bibliothèques Heure Joyeuse soient créées, et ce fut le cas dans une dizaine d'autres villes françaises. Bref, elles inventèrent le métier de bibliothécaire et les bibliothèques pour la jeunesse, telles qu'elles existent jusqu'à aujourd'hui.
Et pour conclure ?
Pour conclure, les bibliothèques font partie de ces endroits que le philosophe Michel Foucault avait eu le génie d'appeler des hétérotopies, des utopies incarnées dans l'espace et dans le temps. Elles sont même hétérotopiques à double titre, en tant que royaume des livres et en tant que royaume des enfants. Mesurons leur valeur, apprenons leur histoire, célébrons celles et ceux qui les animent et fréquentons-les plus que jamais.
Du coup, c'est l'occasion de rappeler le titre de cette expo.
Ça s'appelle « À quoi bon lire ? L'heure joyeuse, première bibliothèque pour enfants, fête ses 100 ans » et c'est à voir jusqu'au 23 mars à la médiathèque Françoise Sagan à Paris.
Merci beaucoup Mathilde Wagman, on peut vous réécouter franceculture.fr à la rubrique Lecture Jeunesse. Et à cette heure-ci, dans le Book Club, on parle de musique. Vous avez évoqué plusieurs fois la musique dans notre entretien, Patrick Chamoiseau, bien des fois le jazz, mais aussi on peut rencontrer Alain Bachung dans votre livre et Oser Joséphine. On propose à nos auditeurs de jouer à un jeu qui s'appelle le grand jeu des pages musicales et on leur demande d'être attentifs au surgissement de la musique dans les textes qu'ils lisent. Notre auditeur d'aujourd'hui s'appelle Alexis et il a relevé un extrait d'un grand livre qui s'appelle « L'écriture ou la vie » de Georges Samprin. On termine donc avec un extrait de ce livre. Nous étions à l'abri, à l'affût. Nous étions une cible parfaite. La même idée nous était donc venue, à Julien et à moi. Mais soudain, le jeune soldat allemand a levé les yeux au ciel et il a commencé à chanter. Kommt eine weiße Taube zu dir geflogen. Ça m'a fait sursauter. J'ai failli faire du bruit en cognant le canon du Smith & Wesson contre le rocher qui nous abritait. Julien m'a foudroyé du regard. Peut-être cette chanson ne lui rappelait rien. Peut-être ne savait-il même pas que c'était la Paloma. Même s'il le savait, peut-être que la Paloma ne lui rappelait rien. L'enfance, les bonnes qui chantent à l'office, les musiques des kiosques à musique, dans les squares ombragés des villégiatures, la Paloma. Comment n'aurais-je pas sursauté en entendant cette chanson ? L'Allemand continuait de chanter, d'une belle voix blonde. Ma main s'était mise à trembler. Il m'était devenu impossible de tirer sur ce jeune soldat qui chantait la Paloma. Comme si le fait de chanter cette mélodie de mon enfance, cette rengaine pleine de nostalgie, le rendait subitement innocent. Non pas personnellement innocent, il était peut-être de toute façon, mais c'est comme s'il était devenu soudain innocent d'une toute autre façon. When I left Havana, nobody saw me go. But my little gaucho maid who loves me so. She came down the pathway following after me. That same little gaucho maid that I long to see. Merci beaucoup Patrick Chamoiseau.
Merci.
D'avoir été avec nous pour évoquer votre livre « Que peut littérature quand elle ne peut ?» paru aux éditions du Seuil. Au son aujourd'hui, c'était Dali Yaha à la réalisation, Vivien Demeyer. Un grand merci à toute l'équipe du Book Club, Louise Hott, Mathilde Wagman, Marianne Chassor, Oriane Mignot, Jeanne Aléos, Cyril Marchand, Léa Weiss-Grus et Alexandra Laibegovic avec qui vous pouvez poursuivre la conversation sur le compte Instagram du Book Club.